Vainqueurs.
Je fais partie du programme pour enfants amputés des amputés de guerre.
Le programme Les Vainqueurs aide les enfants amputés comme moi.
Il me fournit les prothèses dont j'ai besoin pour mes activités du quotidien. Et j'ai accès en tout temps à du soutien et à des ressources sur la vie avec une amputation.
Je peux rencontrer d'autres enfants qui me ressemblent.
Les possibilités pour les enfants amputés sont infinies. Et ce sont vos dons à l'Association des amputés de guerre qui permettent tout ça.
Merci!
Dignité Noire. L'émission qui porte sur les communautés noires d'ici et d'ailleurs et qui s'adresse à tout le monde.
Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux.
Tous les lundis à partir de 19h sur CKIA 88.3 FM.
L'aube rivière, c'est pas mon fort. Et les squats se font plutôt rares. J'ai beau aimer traîner dehors.
Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la librairie du quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Bonjour et bienvenue à Épilogue. Aujourd'hui, au magazine littéraire de CKIA FM, on vous parle de la vie de l'acteur Tim Curry. En roman, on est avec Karl Leblanc et Joël Martel. Et on vous donne le goût de vous sucrer le bec avec le livre Nostalgie. Bonjour tout le monde, bienvenue au magazine littéraire de CKIA FM Épilogue. Brian Saint-Louis qui est au micro aujourd'hui. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Valérie Godreau n'est pas avec nous aujourd'hui. Des obligations professionnelles la retiennent ailleurs, mais qu'à cela ne tienne, comme à l'habitude. On a quand même une belle équipe avec vous aujourd'hui, une belle émission de prévu. Simon, Annie sont avec moi. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bon, ça va aller mieux si j'ouvre vos micros,
n'est-ce pas? Voilà.
Bonjour tout le monde.
Tu fais tout aujourd'hui, alors.
Je fais tout, mais je fais souvent tout, mais là, j'avais oublié de peser sur vos pitons. L'erreur de l'émission est faite. Voilà, c'est réglé. Simon, aujourd'hui à l'émission, on va présenter une entrevue qu'on a réalisée, toi et moi, il y a quelques semaines avec Antoine et Philippe. Antoine Goulet et Philippe Dickey. Je montre le livre à Annie Bussière. Je ne sais pas si tu l'avais déjà vu. Livre de recettes, Nostalgie. Ça a été ton coup de cœur, vraiment, ce livre-là, Simon. J'ai réécouté l'entrevue hier pour la préparer. On sent vraiment ta passion des desserts.
Ah, absolument. Puis j'ai hâte d'entendre à nouveau ce qu'on avait eu comme entrevue ensemble. C'était une très belle rencontre. Voilà, une rencontre à refaire pour le tome 2.
Oui, possiblement. Ça, c'est un des scoops qu'on apprendra dans l'entrevue. Mais c'est un livre dont vous avez probablement beaucoup... Ils ont fait une grosse tournée de promo quand même. On les a vus un peu partout, à la télévision, à la radio.
Ouais.
Mais c'est pas pour rien. C'est vraiment un livre très intéressant. C'est un très beau livre. Ça donne le goût de cuisiner.
Ah,
on
oui,
a déjà commencé, d'ailleurs.
Annie a les yeux pleins d'interrogations.
Annie est tombée sur les biscuits au Paperman
Rose. Au Paperman Rose. Annie qui aime le sucre. Va des rétro-satanas.
Oui, puis là, on vous diffuse ça début novembre. Si vous cherchez déjà des cadeaux de Noël qui vont bien fitter, là, faut dire, puis ça risque d'être le thème de beaucoup de tables de Noël cette année.
Absolument.
Ce livre-là, quand même, c'est un très beau... C'est rare que je dis ça de livre de recettes, là, quand même, là, mais là, il faut dire qu'on tombe dans nos vices et péchés.
Ben oui.
C'est du sucre, c'est beau, c'est plein de couleurs.
Puis on a essayé des recettes, ça fonctionne.
Oui, c'est ça. Nous, depuis quelques semaines, on a quand même commencé à l'essayer, quelques-unes. Il y en aura une autre qui va se faire tout à l'heure, un peu plus tard, en journée. Voilà, donc on vous présentera cette entrevue-là avec Antoine Goulet et Philippe Dickey. Le livre qui est paru chez les Éditions de l'Homme. Et Simon, tu vas aussi nous parler d'un roman. T'es dans l'air du temps quand même, parce que C'était beaucoup au cours des dernières semaines. On revenait sur les 30 ans du référendum. On en a presque plus parlé à ce 30e qu'on l'a fait au 25e. Et moi, j'en ai parlé la semaine passée avec un livre que j'avais lu sur le thème de l'identité, les immigrants. Ça nous préparait à la réflexion que nous aurons. C'est ce qu'on nous a affirmé de plus en plus clairement. Oui, mais, il y en aura un autre.
Mais garde des éléments parce que je pense que tu vas vouloir les ramener tout à l'heure dans ma chronique parce que c'est un roman qui va pouvoir faire un lien justement avec ce qui s'est passé dernièrement pour les 30 ans du référendum. Mais là, c'est un roman rempli de nostalgie, de rêves brisés, à peine un peu d'espoir, alors qu'on retourne justement au 15 novembre 1976, le soir d'élection du premier gouvernement du Parti québécois sous René Lévesque, mais aussi le soir où Étienne Vallière, le personnage principal, perdait son amoureuse, la belle Julianne Casey. Et tout tourne autour de ces deux histoires-là. Je vous en raconte plus tout à l'heure.
Ça a l'air un peu gris, la façon dont tu me parles de ça. Ça s'appelle « Le printemps en novembre » de Carl Leblanc chez XYZ. Voilà. Annie, biographie de Tim Curry. Vous connaissez... peut-être le nom nous flash rapidement rien. J'ai regardé, j'ai dit « Qui c'est Tim Curry? » Mais on le connaît, cet acteur-là.
On le connaît. Il est principalement connu pour avoir joué le rôle de Dr. Frankenfurter, le docteur travesti dans le film Rocky Horror Picture Show.
Que je n'ai jamais vu.
Oh.
J'ai jamais vu ça. J'ai la bande sonore à la maison sur vinyle. J'ai jamais vu ce film-là. Donc non, j'ai jamais été dans un cinéma à me tirer
déguisé,
des affaires.
À tirer des affaires. Moi, je l'ai fait plusieurs fois. C'est hyper agréable.
Tu m'étonnes.
Oui, à Québec en plus. Je sais pas à New York. Mais blague à part, ce que j'ai découvert dans ce livre-là, Vagabond, ben Vagabond parce que c'est la version anglaise, ça n'a pas encore été traduit, c'est que Tim Curry, c'est un artiste complet. On pense souvent à lui comme un acteur de film. Il a fait tellement autre chose.
Mais c'est ça, tu as dit le Rocky Horror Picture Show, mais c'est lui le premier Pennywise dans ça.
C'est lui qui a fait le premier Pennywise dans It ou ça. Il a joué dans Clou, il a joué dans Congo.
Il a joué dans Maman, j'ai raté l'avion 2 pour les gens de ma régénération. C'était lui le pas fin maître d'hôtel.
Exact. Et,
mais on le voit plus.
On le voit plus parce que, ben là, tu vois mes punchs.
Pourquoi vous le voyez plus?
Il y a eu un AVC et je vais vous expliquer qu'est-ce que ça a changé dans sa vie et sa carrière tantôt.
Mais c'est un personnage très important de notre culture. Voilà.
Culture donc, populaire, Tim Curry, c'est un incontournable.
T'as l'air d'avoir aimé ça, ce livre-là. On en reparlera tout à l'heure. Et moi, en fin d'émission, je vous glisserai un petit mot sur le nouveau roman de Joël Martel, Le chien ne meurt pas à la fin. Ce sera
une
cool.
Chance qu'il ne meure pas à la fin. Parce
on n'aime pas
tout,
ça, les
pas
amis.
Ça ne parlera pas de John Wick, en tout cas.
Mais un livre... vous allez voir pourquoi je vous le résume rapidement, enfin. Mais Joël Martel, on l'aime beaucoup. Il a un regard sur la vie un peu décalé. Il est sympathique. On l'aime beaucoup. Donc, on en parlera en fin d'émission. Mais on va commencer ça, comme on l'a dit, en dessert et en sucre. On va aller écouter cet entretien que nous avons fait avec Antoine Goulet et Philippe Diquet il y a quelques semaines déjà pour parler de nostalgie sans dessert rétro revisité. Et quoi de mieux pour se rendre à cette entrevue-là, bien sûr, qu'une chanson très sucrée. On va l'entendre, les Melodies en musique avec Sugar Town.
Yeah.
Ce sont les deux vedettes de la rentrée littéraire, on se mentira pas. Ils ont fait paraître le livre Nostalgie, sans dessert rétro revisité aux éditions de l'Homme. Antoine et Philippe qui sont avec nous, Antoine Goulet et Philippe Dickey. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Dans cette grande tournée de promo fort occupée pour votre livre, qui est, oui, La vedette en librairie, on se mentira pas, un très beau livre avec des desserts rétro, comme on l'a mentionné, des recettes de notre passé qu'on revisite un peu. Un livre que tout le monde aime, mais je vous l'annonce tout de suite, pas moi, bien sûr, parce que ce livre-là, qui est très beau, qui est très bien fait, qui présente des super belles recettes, quand même, c'est ça, c'est que les photos sont très belles et ça nous laisse croire qu'on va réussir ces recettes-là avec autant de talent que vous. Alors, messieurs, je vais vous laisser les prochaines minutes pour défendre votre ouvrage, parce que oui, c'est un très bel ouvrage, mais la pâtisserie, est-ce que c'est vraiment pour tout le monde, là, faire des desserts, faire des beaux desserts aussi?
On ose prétendre que oui. T'sais, c'est vraiment des desserts. Justement, on est dans les desserts québécois, fait qu'il y a très peu de décoration aussi. C'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. C'est des recettes qui goûtent bon avant tout. C'est ça le plus important. La beauté se trouve moins dans... C'est pas des gâteaux décorés avec des rosettes et des choses comme ça. Là. On est dans le pudding chômeur. C'est des choses qui vont être très brunes, mais il y a une beauté dans tout ça qui vient avec un peu moins de minutie et de précision.
Moi, ça me donne faim. C'est un ensemble de recettes qui me ramènent dans mon passé. Mais avant de parler de mon passé puis de ces recettes-là, j'aimerais ça parler de votre passé. Vous êtes rencontrés comment? Puis comment a émergé l'idée de ce livre de recettes-là?
En fait, on s'est rencontrés sur l'émission Le meilleur pâtissier du Québec, où on participait tous les deux. On se connaissait pas du tout, on est arrivés sur le plateau, on s'est rencontrés. Bon, naturellement, ça a cliqué. Après quelques mois, bon, on a commencé à se fréquenter, et voilà, l'histoire se fait d'elle-même par la suite. On a toujours un peu chéri l'idée de faire un livre de pâtisserie tous les deux. Pour nous, on est pâtissiers amateurs, donc c'est hyper important de démontrer que la pâtisserie ou le dessert n'est pas obligatoirement difficile. Pas obligé de faire des macarons quand tu fais du dessert. En travaillant sur cette simplicité-là, nos recettes familiales revenaient dans nos listes de recettes, nos sujets, nos idées pour le livre. C'est là qu'on a réalisé nos grands-mères là, faisaient des desserts très simplement, avec peu de moyens, peu de ressources, mais les desserts étaient super bons, puis encore aujourd'hui, on a le goût d'y manger. Donc, c'est là que la nostalgie s'est vraiment imposée naturellement dans ce livre-là.
Puis là, vous aviez déjà un passé, vous n'êtes pas pâtissier de formation, vous avez eu une formation par la... Oui, vous avez...
Non, c'est en fait la compétition, c'est une compétition de pâtissier amateur.
Amateur, OK. Ouais. Mais donc, vous étiez pâtissier énormément dans vos temps libres pour arriver avec autant de recettes et influencé par les grands-parents, les parents, vos mères sont présentes, vos pères, on en parle moins...
C'est quelque chose de très... féminin,
oui,
je pense.
Sans inspiration.
Sans rien enlever à mon père.
Les papas mangeaient les recettes,
voilà.
Mais ils les faisaient pas.
Il est plus goûteur que d'autres choses, mais on le salue. on a vraiment travaillé beaucoup avec nos mères, nos grands-mères. La nostalgie, on s'est amusé à la diviser en trois sortes de nostalgie. Oui. Il y avait vraiment les desserts, justement, de grand-maman. On les connaît, là, les puddings chômeurs, les gros classiques. On s'est amusé aussi avec tous les petits desserts commerciaux. Les desserts de boîte à lunch, Joe Louis Gâteau Vachon.
Passion Flaky.
Voilà, qu'on revisite avec des petits twists. Et on a aussi des desserts originaux, le biscuit à la Paparman. Vraiment des saveurs nostalgiques, mais qui n'étaient pas vraiment représentées peut-être dans le monde du dessert. Fait que nous, on s'est amusé à être plus créatifs sur ceux-là.
Un peu comme le carré au Rice Krispies à la limonade. Je doute que vous l'ayez fait parce qu'on n'a pas une vraie photo. Non, j'y crois quand même. Puis des recettes vraiment qui mettent aussi des fois deux desserts ensemble. J'en suis pas revenu, hein, Brian, ici, quand j'ai lu gâteau aux carottes renversé aux ananas. J'ai fait non, ça
c'est deux recettes préférées, c'est le renversé à l'ananas et le gâteau aux
carottes qui est mon gâteau, mon
anniversaire. Alors de voir là un gâteau aux carottes renversé à l'ananas, il a perdu connaissance en 10 minutes.
Une petite minute là. Mais c'est ça. Alors, vous avez mélangé plein d'éléments ensemble pour arriver. Mais Comment vous êtes arrivé à ça?
Ben, en fait, c'est qu'à la base, on partait sur la prémisse que notre sucre à la crème, on ne vous fera jamais avaler qui est meilleur que celui de votre grand-mère. On n'a pas cette prétention-là. Notre tarte au sucre ne sera pas meilleure. Notre gâteau aux carottes ne sera pas meilleur. D'où l'idée de revisiter les desserts, de prendre ces saveurs-là, ces goûts nostalgiques-là, puis d'en faire autre chose, pour proposer autre chose. Et c'est un des mix. En fait, à la base, on a sorti, je crois qu'on était à 130, 140 idées de desserts nostalgiques ou de saveurs nostalgiques. Puis là, on a fait des matchs. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un gâteau aux carottes pour le modifier, pour le revisiter? On avait parallèlement à ça le gâteau renversé aux ananas. Puis c'est là, pour celui-là en particulier, là, c'est là qu'on a fait. Ben oui. En plus, souvent, il y a de l'ananas dans le gâteau aux carottes. Oui. C'est un win-win.
C'est que c'est des heures de tests. C'est des heures de possibilités. Qu'est-ce que vous avez fait avec tous ces desserts-là? Vous avez élaboré les tests. Il y avait des mangeurs autour de vous, là?
Absolument. On avait des collègues qui ont été gâtés. On partait le lundi avec des plaques de desserts. Puis sinon, on avait un petit groupe de voisins proches. Le dimanche matin, on écrivait sur notre groupe. On envoyait une photo. C'est comme, voici ce qui est disponible.
Oh, wow.
Passé cet après-midi, on avait des petites boîtes. Fait que ça nous permettait aussi de voir des gens parce que on était un peu prisonniers de notre cuisine. Oui. Fait que c'était notre petite sortie sociale avec les gens qui venaient nous chercher du dessert.
Parce que les gens qui nous écoutent, ils vont voir les photos, ils vont avoir le goût de les faire. Puis là, ils se disent, mais c'est ça, ça a été testé, ça a été maintes fois réalisé pour arriver à ce produit-là. Est-ce qu'on peut se fier aux photos à chaque fois? Plus ou moins?
Ben, oui. En fait, oui. Les photos de dessert qui accompagnent les recettes, définitivement. C'est sûr qu'il y a du stylisme. Ça reste une photo pour un
Donc, rire. Brian va y arriver, là.
Brian peut assurément y arriver.
Okay.
Mais comme on dit, l'important dans le dessert, en fait, dans les recettes en général, les gens vont se souvenir de quelque chose de super bon, même s'il n'était pas super beau, versus quelque chose de super beau, mais qui n'est pas super bon. L'important, c'est vraiment bon. Le goût. Et ça, on a fait entre 300 et 400 tests pour ce livre-là. Donc, les gens autour de nous ont beaucoup mangé. Ils s'en plaignaient souvent. Mais le goût, il est là. Pour vrai, même si c'est pas exactement visuellement de la même chose, parce que ça a coulé un peu, parce que ça a surcuit un peu, ça va être aussi bon.
Parce qu'on se disait peut-être que Brian, ben, il mettait en doute la possibilité de le faire. Moi, je pense qu'on est capable, surtout avec l'ensemble des éléments que vous donnez pour faire, ici j'ai l'assemblage devant moi, mais toutes sortes de trucs culinaires qui vont nous aider. C'est très, très bien fait. Le graphiste fait en sorte que c'est clair, c'est bien disposé pour travailler, moi, plus en pédagogie avec les jeunes. On recherche ça, c'est pédagogique presque, là. On a le goût de prendre le cours de pâtisserie avec vous. Allez-vous donner un cours de pâtisserie? Je ne sais pas, mais on a le goût de vous suivre. On aimerait votre émission de recettes, en fait, à un moment donné, pour nous aider, parce qu'on sent que c'est...
Ben c'est ça. Je doute encore que je vais réussir à avoir le talent artistique de réussir vraiment des aussi belles recettes. Mais il y a vraiment une section au début du livre qui explique ce que c'est la pâtisserie. C'est rare dans un livre de recettes où on a le goût de lire cette section-là, mais là, qui est quand même présentée de manière aérée.
Avec la twist rétro.
Mais de comprendre un peu, parce que la pâtisserie, les desserts, c'est aussi un peu une science. Et ce bout-là, on l'oublie parfois, puis c'est des connaissances qu'on a un peu perdues si on n'a pas assez cuisiné avec maman, là, de comprendre qu'est-ce qui fait, qu'est-ce que ça fait la poudre à pâte, qu'est-ce que ça fait le bicarbonate de soude, la fameuse crème de tarte. Et on en parle dans ce livre-là. Et oui, la présentation nous donne enfin le goût de lire cette section-là. Là.
Ben, on voulait pas que ça soit théorique, justement. Puis on a la force que je suis designer dans la vie. On pensait tout de manière visuelle. T'sais, c'est quoi la meilleure façon d'expliquer ça? Des fois, c'est de le montrer. Fait qu'on avait vraiment cette force-là commune. Puis ce guide-là, au début, on s'est vraiment amusé dans l'esthétique rétro. Mais on part vraiment de la base. Puis c'est des choses, c'est que même nous, là, on le sait, la poudre à pâte, ça sert à quoi? Mais c'est quoi, là, mettons, quelqu'un qui a jamais vu ça de sa vie? Ça sert à quoi concrètement?
Est-ce qu'on l'a encore assez, l'éducation culinaire au Québec, de comprendre tout ça, ou ça s'est perdu un peu, là? Maintenant que vous avez parlé beaucoup avec vos grands-mères, avec vos mères...
Je sais pas jusqu'à quel point c'était su. C'est-à-dire que ma grand-mère mettait une grosse poignée de quelque chose dans sa recette. Est-ce qu'elle savait exactement c'était pourquoi? Je doute. Je pense que ça veut dire parce que sa mère faisait ça et sa mère faisait ça. Au final, on explique certains trucs, mais si tu sais pas exactement ce que fait la poudre à pâte, c'est écrit d'en mettre une cuillerée à thé, mais une cuillère à thé, puis ça va marcher. Après ça, la science derrière, c'est accessoire au final. T'sais. Si tu suis la recette, et tu suis certaines bases, tu peux même imaginer toi-même ta propre recette. C'est ce qu'on fait dans le livre aussi quand tu parlais du Rice Krispies.
Oui.
C'est une de nos recettes classiques pour lesquelles on offre des dérivés, on propose des dérivés aussi. Donc, à partir de la recette de base, modifie telle affaire et ça va donner quelque chose de complètement différent. Ça nous a permis de développer notre instinct de pâtissier amateur.
Mm.
Puis on veut que les gens arrivent avec ça aussi. Modifie telle poudre pour telle autre poudre, puis tu as quelque chose de complètement différent. Mm-hmm. Après ça, ça se fait tout seul.
Puis parfois, c'est simplement dans la façon de le faire. Quand on parlait hors d'onde de la couronne de brioche, de le placer, la couronne, je vais le nommer comme il faut, la couronne de brioche Reine Élisabeth. Alors là, c'est de disposer la pâte, puis ça donne un effet. Ça doit être très, très, très... Comment que vous diriez ça, disons?
C'est moelleux. Oui,
moelleux.
C'est moelleux,
merci.
Mais t'as le croustillant du Reine Élisabeth.
Oui.
C'est un super beau, ici dans la section brunch, mais c'est une super belle pièce aussi, comme centre de table, limite.
Ben oui.
Que les gens pigent dedans. Ça, c'est un des desserts préférés. C'est le Reine Élisabeth. Moi, c'était mon gâteau de fête quand j'étais jeune. Puis ma spécialité, c'est les brioches. On a vraiment combiné ça dans ce dessert-là.
Ah, c'est ça. C'est vrai. Je pense que les gens vont découvrir pas juste des recettes pimpées, là, excusez le terme, mais des recettes améliorées, mais il va y avoir aussi des nouvelles façons de faire les recettes. Puis je veux vraiment parler, moi, les grands-pères dans le lait de poule. J'ai lu sirop d'érable, lait de poule, vanille, cannelle, muscade. Là, à chaque fois, je faisais comme... Non, mais ça se peut pas tous les ingrédients que j'aime dans un même dessert. C'est la combinaison des biscuits au pain d'épices avec... Ah, c'est ça. Alors, il y a parfois là, des choses... Ça, c'est un dessert que je vais faire vraiment. Il doit être fabuleux.
C'est délicieux. C'est un des desserts très bruns. Oui. Comment est-ce qu'on prend ça en photo pour rendre
ça beau?
Il est brillant,
il est attirant.
C'est un bel exemple de... Si on le fait, on reçoit des gens, ça ressemblera pas exactement à ça. Il y a un flash derrière ça. Il y avait la petite pipette avec le sirop sur le bord pour que ça coule à la bonne place, naturellement. Mais c'est une des photos de laquelle on est le plus content parce que ça a l'air appétissant. Puis rendre un grand-père dans le sirop appétissant, c'est une tâche.
Mais c'est bon, c'est ça. Fait qu'on peut se concentrer sur... C'est bon.
Mais là, toi, tu voulais parler du temps de préparation des recettes.
Oui, ok, je l'ai pas dit, tu veux, avant qu'on aborde ça. Okay.
Oui, bien sûr. démystifions les mensonges de cette vie.
La seule chose sur laquelle je pourrais peut-être me questionner, c'est le temps de préparation. Parce que moi, on dirait qu'à chaque fois que je lis un livre de recettes puis je lis le temps de préparation, je me dis... là, ils avaient tous leurs petits pots devant eux, ils avaient toutes leurs choses préparées, puis c'est 45 minutes, disons, pour ça. Mais c'est pas vrai, moi, ça va m'en prendre 1h45 juste à placer tous mes ingrédients, puis à vérifier que j'ai bien suivi la recette. Ça se peut pas, là. Ces temps-là.
On a vraiment travaillé. C'est sûr que c'est pas notre temps, puis c'est pas une course non plus, là, faire une recette, puis on le dit, puis c'est vraiment important. Mais même pour nous, ça a vraiment été un exercice à se poser, parce que on est deux, puis on est rodé dans notre cuisine.
Ouais.
Fait que c'est sûr que le temps qui est écrit, c'est deux fois le temps peut-être que nous, on prend. Mais on a vraiment, on a travaillé, on a une éditrice, on a une équipe, on s'est vraiment posé les questions, puis on n'a pas créé de faux scénarios, là, comme souvent là, quand ils disent faire caraméliser des oignons en 10 minutes.
Ouais, mais...
Ça n'existe pas. Ça.
C'est pas le vrai temps que ça prend pour un oignon de caraméliser, je comprends. Puis c'est ça qui me choquait, justement. Fait que là, on peut quand même, donc... Mais ici, 10 minutes. Non, ça se peut pas.
Ça, c'est un bol.
Tu mets tout dans le même bol.
Mais ça veut dire que tout est prêt, ben c'est non, ça. Ben... Les ingrédients sont prêts sur le bord.
Mais ta cuisine n'est pas si grande que ça.
C'est ça. Mais le plus de temps quand même qui s'est mis, c'est pas dans la recette, c'est vraiment dans le livre. On voit vraiment tout le temps d'édition qu'il y a eu dans ce livre-là.
Ouais,
le
temps
de... Au-delà du trip de cuisinier et de pâtissier, on sent qu'il y a eu un trip d'édition et de graphiste beaucoup dans le livre. Vous avez eu le luxe de mettre énormément de temps dans ce livre-là, ça paraît. Est-ce que la maison d'édition a eu un doute à un moment donné? Est-ce que ça vaut la peine de mettre autant d'efforts? Est-ce que ça va bien se vendre?
On a eu tellement de belle confiance de la part de l'équipe.
Quand on a fait notre pitch à la maison d'édition, ça a pris une couple de jours, une semaine de réflexion, c'est normal. On a eu carte blanche totale. Déjà, c'est un peu un projet clé en main. C'est-à-dire qu'Antoine s'occupait du graphisme. On a fait les photos ensemble à la maison. Donc, c'est un clé en main, mais on a eu une confiance avec notre éditrice. À chaque fois qu'on lui présentait des nouvelles recettes, on lui arrivait avec des idées, tout ça, qu'on avait eu, des premières photos qu'on avait, les étoiles dans les yeux qu'elle avait, c'est incroyable. Ça, c'est ultra motivant. Et ça crée une confiance réciproque aussi. Pour vrai, ils nous ont pas soufflé dans le cou, là. Du tout. Ils nous ont assisté au bon moment, quand on en avait besoin. Naturellement, l'aspect technique de l'édition de recettes, le s'assurer que tout balance à la fin, tu sais, ils nous ont beaucoup aidé là-dedans. Mais en termes de créativité, c'est 100% ce qui sort du cerveau d'Antoine et moi.
Donc, c'est votre bébé. Vous en êtes très fiers. qu'à l'autre. Voilà. Mm-hmm.
Puis est-ce que la préface de Jeannette Bertrand a été quelque chose d'inattendu, cette collaboration-là?
Elle a dû être dure à convaincre.
Ouais.
Vraiment pas. En fait, à la base, dans l'intro, on voulait la citer. Elle a une citation où elle dit, puis là je me mélange peut-être dans les mots, c'est « on rate jamais un dessert, on lui donne seulement un autre nom mm-hmm. ». On trouvait ça super beau, donc on voulait la citer, parce qu'on trouvait que ça représentait bien l'esprit du livre, de décomplexer tout ça. Puis là, de fil en aiguille, on a eu un contact, on a tendu une perche. Je veux dire, c'est l'année de son centenaire, donc on ne s'est pas fait d'espoir. Je veux dire, elle était très occupée, elle était partout.
Ouais.
Mais on a eu une réponse rapide, positive. On a eu la chance de lui présenter le projet. Puis elle était super emballée par les recettes. Elle avait hâte de les essayer, puis elle avait hâte d'avoir le livre en main. Là,
oui.
C'est un honneur incroyable.
Ah, ben c'est merveilleux. Mmh. Moi, ce que je souhaite, Brian, c'est qu'il y ait peut-être un tome 2, la suite des recettes. Et moi, je trouve qu'il manque la tarte aux sauterelles, qui serait la continuité. Oui, vous connaissez
c'est
ça.
C'est parti
de
la liste.
Oui, OK, j'ai hâte au tome 2. Et ben, c'est de l'acheter pour le donner à tout le monde à Noël cette année, de l'offrir en cadeau d'anniversaire, puis de vraiment essayer toutes ces recettes-là.
Avez-vous l'impression qu'il y a beaucoup de tables à Noël qui vont être inspirées par votre livre de recettes cette année?
On le souhaite. Mmh. L'année passée, à Noël, chez nos familles, le livre était assez avancé. On a testé beaucoup de choses et les tables étaient très belles. Donc, pourquoi pas?
Combien de cas de diabète dont vous êtes responsable cette année?
On les compte plus.
On parle pas ça.
C'est le plaisir.
On parle pas non plus du nombre de calories pour chaque portion de ce livre. On y va juste dans le plaisir. Donc, ça s'appelle Nostalgie. C'est 100 recettes rétro revisitées. C'est un très, très beau livre. On va le voir au fil des semaines. C'est aussi un bon livre. On en essaiera quelques-unes. On vous tiendra au courant. C'est aux éditions de l'Homme, Antoine et Philippe. Merci beaucoup.
Merci.
Et on vous souhaite... Ben, on a vu aux petits yeux que le tome 2, ça se discute déjà. On en reparlera à ce moment-là. Merci beaucoup. Tous
merci.
Les deux.
Merci. Merci.
Sugar daddy, il fait chaud
passion dans le sucre et la nostalgie. Il nous fallait donc Patsy Galant en musique avec Sugar Daddy. Oui, vous écoutez toujours Épilogue, le magazine littéraire de CKIA FM. On va maintenant se diriger vers Annie Bussière. Toi aussi, un peu dans la nostalgie quand même.
Ah, avec assumé, absolument.
Vagabond.
Vagabond.
La biographie. L'autobiographie.
C'est l'autobiographie, c'est un mémoire.
Un mémoire.
Un mémoire
de Tim Curry.
Tim Curry, qui a joué, comme on le disait, d'entrée de jeu, qui a joué le rôle du docteur Frankenfurter dans le film événement qui a 50 ans cette année, Rocky Horror Picture Show. Et moi, c'est principalement comme ça que j'ai connu Tim Curry. Et il m'a tellement fait une forte impression que j'ai comme toujours gardé un petit oomph spécifique pour lui, malgré le fait que je l'ai pas j'ai pas suivi sa carrière, je l'avoue, j'ai pas suivi sa carrière après. Je savais pas trop ce qu'il avait fait dans la vie. Tout ce que je savais, c'est que ben il y a 13 ans, il s'est tapé un méga ACV de la mort. Il a survécu, mais de peine et de misère. C'est à peu près tout ce que je savais. Puis ce qui est intéressant aussi avec Tim Curry, c'est que il semble avoir eu une vie assez colorée, mais il refuse d'en parler. Alors, c'est pour ça que dans un mémoire...
Donc, il nous cache des choses. C'est pas un livre très épais, donc...
Non, ben c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, ce monsieur-là a pas loin de 80 ans. Il a une carrière de 60 ans. Et, comme je vous disais aussi, je savais pas, il a tout fait. Il a fait du cinéma, il a fait de la télé, il a sorti des albums, il a fait des tournées, il a fait de la scène, et il a aussi beaucoup développé le voice work, là, ceux qui font...
du doublage?
Pas du doublage, non, c'est les voix de dessins animés ou des choses comme ça. Il a fait de la voix pour les jeux vidéo, des choses comme ça. Puis depuis son CV, ben son corps ne fonctionne plus, mais sa tête et sa voix sont toujours là. Alors, c'est comme ça qu'il continue à s'investir. Et pourquoi le titre, c'est que Tim Curry se pense, je pèse mes mots, se pense un vagabond. Parce que dans sa tête, le fait de pas avoir une job de 9 à 5 fait systématiquement de toi un vagabond. Alors, bon, alors voilà, c'est correct.
Il a été élevé par des gens, probablement, qui avaient des barrières. Donc, ça a mal été reçu par ses parents, c'est son choix de devenir comédien.
Oui, oui, bien voilà, évidemment, évidemment.
Tout est toujours là. Hein?
Je dois vous dire que si, comme personne, vous avez une certaine distance avec votre mère, vous allez avoir un jumeau avec Tim Curry, parce que la moitié du livre, c'est tout ce qui va pas entre Tim et sa mère. C'est assez spécial. Mais nonobstant tout ça, c'est que moi, j'ai trouvé que c'était, jusqu'à un certain point, pas mal franc et honnête, parce qu'il nous parle de ses problèmes de drogue, de ses problèmes d'alcool, et puis il est pas gêné de nous dire que il a accepté un contrat parce que il avait faim, puis il avait besoin d'un chèque de paye, puis après ben il a pas aimé l'expérience, il a pas trouvé que le film ou l'émission de télé c'était à la hauteur, mettons, du talent et des efforts investis. Fait que ça, pour ça, tout en étant très poli, je veux dire, il se cache pas qu'il y a eu des erreurs de parcours, mm-hmm. mais il y a eu aussi de grands succès. Toutefois, quand on le lit, il y a des trous dans l'histoire. Parce qu'à force d'essayer de tout blanchir, puis de nous dire que tout était donc parfait, puis j'ai donc eu du fun, puis moi je fais un contrat de 2 mois par là, puis après ça je pars sur une dérape, puis je vais me chercher un autre contrat, puis tu sais, moi je suis un vagabond. Il laisse beaucoup de trous dans l'histoire. Parce qu'à un moment donné, si tu fais la chronologie de tout ça, tu dis « qu'est-ce que t'as fait pendant 6 mois-là? »
T'es parti en vacances pendant 8 mois, mais qu'est-ce qui s'est passé?
C'est ça, t'es parti sur un super bender, une fin de semaine qui a duré 8 mois. Et du moment où il ne parle pas de sa vie, il refuse systématiquement depuis le début de sa carrière de nous parler de sa vie privée. Alors, on sait pas... ben on sait pas qui l'a aimé, de qui a été aimé. C'est sûr que c'est pas important dans sa trajectoire professionnelle, mais ça éclaire sur une personne.
Oui.
Et ça, c'est quand même. Il refuse d'en parler. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il veut qu'on jase de lui, Il y a quand même quelques petits indices des fois qu'on se dit oh, peut-être que lui, le 8 mois il l'a passé avec telle personne ou telle personne, mais vraiment il est très 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 pudique sur sa vie privée. Mais ce qui est intéressant, puis je dois l'avouer, comme je vous disais, j'avais pas suivi sa carrière là, de bout en bout, mais il a travaillé tout le temps. Malgré le fait que c'est un vagabond puis qu'il devait chercher. Tu sais, il a fait du hustle, là. Il fallait qu'il aille chercher les contrats parce que les gens prenaient pas systématiquement toujours une chance avec lui. Fallait qu'il ait se présenter, fallait qu'il passe des auditions, fallait qu'il convainque des gens de « je suis la meilleure personne pour ton projet ». Alors, il a travaillé beaucoup et c'est ce qui fait qu'il a eu une carrière... qui s'étale sur 50-60 ans. Très, très, très diversifié. Beaucoup plus qu'on pense, honnêtement. Mais Tim Curry étant un Britannique, vous vous doutez qu'il y a de l'humour fin. Il y a des mots d'esprit. Il est rigolo, ce bonhomme-là. Vraiment. Mais de toute façon, tu lui regardes la face puis tu te dis, passer une soirée avec un verre dans le nez avec lui, ça doit être le fun. Le petit point qui, personnellement, m'a un peu chicoté, mais pas suffisamment pour vous dire de ne pas le lire, là, c'est que il n'est pas capable vraiment de se brancher à savoir si il souffre du syndrome de l'imposteur, de se dire « ouais, ben d'un coup, je pense que c'est bon pour faire telle affaire », ou d'être un être humain tellement égoïste et imbu de lui-même qu'à un moment donné, il y a des phrases où... j'étais tellement content qu'il daigne me parler ou qu'il s'intéresse à moi. Puis, oh, je leur ai dit merci de s'intéresser à moi. C'est parce que ça peut être pris des deux sens. Merci de m'intéresser, de t'intéresser à moi. Et on sent un petit filon qui se mouche pas avec des pleurs d'oignon. Okay. On va dire ça comme ça. Je pense qu'il a, il a une estime de soi particulièrement forte. Je trouve aussi qu'il est respectueux. Si vous pensez lire une autobiographie avec ce qu'on dit en anglais, du name-dropping, là, de parler de tous ceux qu'il connaît, puis de parler de faire du gossip, de ci, puis de ça, vous allez être amèrement déçus.
Même dans les... étant donné qu'il revient beaucoup sur son parcours cinématographique, sur les œuvres qu'il a fait, il glisse pas de mots sur ses...
Il parle uniquement des gens avec qui il a cliqué, avec qui il y a eu du fun, avec qui il y en a certains qui reviennent parce que, bon, on voit qu'il y avait comme une petite mini-clique à cette époque-là, les années 70, puis ils se sont un peu suivis pendant quelques années. Puis vous allez connaître les gens avec qui ils s'entendaient bien, mais avec qui il y avait des fous rires. Mais ça s'arrête là. Alors, tu sais, oui, dans une autobiographie, tu choisis comment tu te présentes, mais un certain équilibre entre ce qui marche puis ce qui marche pas, puis tu sais, il y a des moments où ça ne va pas dans la vie. Comment tu gères ça? Fait que c'est pour ça qu'à la fin, je me suis pris une petite note, c'est que on a l'impression qu'il essaie de justifier sa carrière, mais en même temps, on n'a pas l'impression, pardon, de le connaître plus qu'avant.
Bref, il y a beaucoup de trous dans cette biographie de ce chien vagabond qu'on tente de suivre. Si je suis ta chronique depuis
c'est
le début,
exactement ça.
On a les grands traits, mais pas de potin, pas de vie
c'est
personnelle.
Ça.
Pas
on
de...
est vraiment dans le super macro. Puis comme je vous dis, on dirait qu'il voulait justifier sa carrière en nous parlant, mais là, j'ai fait ça. Puis à la fin, il y a à peu près 20 pages de tout ce qu'il a fait pendant sa carrière. C'est super intéressant. Parce que tu dis, tabarnouche, OK, il en a travaillé une shot. Mais comme personne humaine, on le connaît pas tant que ça, puis surtout qu'il explique pas son processus. Puis c'est ça qui, moi, personnellement, ça m'a déçu parce que comme c'est un artiste complet qui a fait vraiment beaucoup de choses dans sa vie, ça aurait été le fun de voir comment il abordait la télévision, versus comment il abordait le film, comment il abordait le théâtre, parce
du
qu'il
Broadway
a fait vraiment,
qu'il a fait aussi,
il a fait beaucoup de Broadway, du West End aussi en Angleterre. C'est là qu'il a été connu. D'ailleurs, Rocky Horror, ça a commencé comme une pièce de théâtre. Et il nous explique pas son processus parce qu'il est trop intéressé à nous dire avec qui il est parti sur une chire, puis avec qui il a ri dans les coulisses de tel spectacle. C'est le fun. Oui, mais comme je vous dis, on termine le livre, on se dit « Ha, 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 ça a été drôle, il y avait des mots d'esprit. » Puis c'est une photo d'une certaine époque aussi, parce que le gros de sa carrière, c'était 70-80. Mais est-ce que je connais Tim Curry, l'homme derrière le mythe? Pas sûr. Mais je vais me retaper Rocky Horror dans les prochains jours. Ça, c'est sûr, parce que la scène, if you know, you know, mais la scène, quand il sort de l'ascenseur, puis qu'il commence à marcher, puis qu'il enlève sa cape.
Oui, bien sûr, cette fameuse scène.
Cette fameuse scène, if you know, you know. Mais blague à part, si vous êtes curieux d'une certaine scène artistique britannique et états-unienne 70-80 dans les grosses années, c'est intéressant parce qu'au final, Tim Curry connaît tout le monde.
Mais on en aurait pris plus, si je comprends bien.
Ok, oui, moi j'attends un peu, comme tu disais tantôt, Simon, moi j'attends le tome 2.
Vagabond, c'est en anglais pour le moment, oui. C'est chez Grand Publishing, A Memoir of Tim Curry. Donc,
Curry.
Chien Vagabond, ça va nous mener ça vers les chats sauvages de Marjo. Et je vais vous expliquer après pourquoi on l'écoute en musique. Merci beaucoup, Annie.
Chanson, elle est pour
C'est déjà le dernier droit de cette émission d'épilogue. Pourquoi chat sauvage de Marjo? C'est parce qu'il en est beaucoup question dans le livre dont je voulais vous glisser quelques mots aujourd'hui. Joël Martel, Le chien ne meurt pas à la fin. C'est un chroniqueur, on l'a lu dans plusieurs magazines dans le temps. Il faut aussi de la chanson, c'est très drôle. C'est son deuxième roman. Il nous avait donné, il y a quelques années, son premier roman, Comme un long accident de char, où il parlait de la mort de son père, du rapport qu'il avait eu avec son père tout au long de sa vie. C'est aussi une occasion de revenir sur les décès qu'il a eus tout au long de la chronologie de son existence. Donc, il nous parle des personnes qu'il a autour de lui qui sont mortes, comment ces personnes-là sont mortes. C'était ironiquement un livre quand même joyeux, plein de lumière. Ce qui résume le mieux, c'est le cliché « La mort, il y a plein de vie là-dedans ». C'était vraiment ça. Et il nous refait un peu le coup avec « Le chien ne meurt pas à la fin », toujours aux éditions La Mèche. Mais cette fois, il va revenir sur les animaux qui ont parsemé le fil de son existence. Chat, chien, cochon d'Inde, tarentule.
Hamster.
C'était le cochon d'Inde de Pamela, qui n'a pas beaucoup aimé lorsqu'il était aux résidences d'université. Mais beaucoup de chats, beaucoup de chiens. Le fil conducteur, c'est que Joël Martel, qui est en couple depuis plusieurs années avec sa femme, ont un enfant, une fille aussi qui est morte-née. Donc, il y a plusieurs éléments de vie. Là, il décide de réadopter un nouveau chien qui s'appelle Billy, qui est un labrador, qui est un peu fou. Et là, l'histoire de Billy le ramène à réfléchir aux animaux qu'il a eu tout au long de sa vie. Mais chaque animal vient avec beaucoup d'histoires, beaucoup d'anecdotes. Donc, c'est pas un roman dont je peux vous parler excessivement très longtemps, parce que justement, c'est une longue suite de tableaux, de chats qui ont été dans sa vie, de chiens qui sont passés, certains plus rapidement que d'autres. On suggérait à Joël Martel de garder ses chats à l'intérieur de sa maison. Il y en aurait okay, beaucoup moins qui finiraient écrapous et disparus. Mais donc, il y a beaucoup de chats comme ça donc, qui meurent écrasés, qui disparaissent. Des chiens. Donc, on suit finalement le fil de son existence, des tableaux qui sont passés au travers ces animaux-là. Très intéressant. C'est pas un grand moment de littérature, mais c'est de l'anecdote sympathique. Ça reste joyeux, ça se lit très bien. Puis moi, j'ai beaucoup aimé ça, ce chien.
C'est pour un ondant?
Non, mais surprenamment parce qu'on parle des animaux,
un chat, c'est un chat, mais
tous les animaux ont leur personnalité, ça transparaît un peu. Mais on sort vite des animaux. Parfois, l'animal ne sert que de prétexte à aborder une anecdote, un moment, des gens qu'il y avait autour de lui. Donc, on peut parler un peu plus longtemps des animaux parfois, mais ça va quand même assez rapidement. Et c'est très sympathique, Le chien ne meurt pas à la fin. Si vous voulez lire de quoi de pas compliqué pour vous mettre de bonne humeur, ce nouveau roman de Joël Martel chez La Mèche, voilà, léger et sympathique. Simon, bonjour.
Donc, c'est là-dessus que j'enchaîne?
Oui, tu enchaînes avec cela pour nous parler de ce nouveau roman, Carl Leblanc
qui a écrit déjà quelques romans. Je les aurais nommés si tu m'avais dit que tu allais m'introduire avec ça.
Bah, non, mais...
Donc, le personnage secondaire, Téfac, Fruit, Premier essai, Rétroviseur, parfois Boréal, parfois encore chez XYZ.
Et là, on est vraiment dans l'air du temps. On va nous parler de référendum. On en a beaucoup parlé dernièrement. Et le livre s'appelle Le printemps en novembre. On est en novembre. C'est paru chez XYZ.
Exactement. Je veux dire dès le début que j'ai fait dans les dernières semaines plus d'essais et j'ai plus de facilité à vous faire une chronique sur les essais. Donc, ceci étant dit, j'ai abordé le roman avec beaucoup de plaisir en me disant « Ok, on est en printemps-novembre, donc il va y avoir quelque chose qui va fleurir, il va y avoir un renouveau. C'est le novembre de quoi? » Et on voit René Lévesque sur la page couverture. Donc, on est au moment de l'élection, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, du Parti québécois le 15 novembre 1976. Tout en même temps, on est en novembre 2006, il y a Étienne Vallière, invité à la projection d'un film documentaire sur l'élection historique du Parti québécois en 1976. Donc, on joue avec ce jeune Étienne Vallière et le vieux Étienne Vallière, ben vieux, 46 ans de 30 ans plus tard, qui va à cette projection-là. On est constamment entre le soir d'élection et 30 ans plus tard, la projection. Et Étienne vivait dans une famille où c'était très mal vu d'être souverainiste. On disait indépendantiste, on disait séparatiste. Et ses parents n'étaient pas du tout comme ça. Mais ses voisins, les Casey, eux sont indépendantistes. Ils suivent ça avec, avidité, avec beaucoup d'intérêt. Toute la soirée d'élection, le monsieur Casey était un péquiste convaincu. Les enfants aussi. Et surtout, sa belle jeune Juliane Casey, la fille de M. Casey. Donc, Étienne passe la soirée chez les Casey pour vivre ce moment-là. Mais voilà, le nœud est que Julianne devait y être, mais elle n'y est pas. On apprend qu'elle a pris le train dans la matinée sur un coup de tête. Et c'est pas un gros punch, c'est le début du roman. Elle a rejoint Simon Lemieux, un homme qu'on dit beaucoup plus âgé qu'elle, mais quand même assez jeune. C'est un jeune futur député. En fait, il va être élu député ce soir-là pour le Parti québécois. Elle le rejoint à Montréal alors que, justement, tout le monde est assemblé pour... j'ai oublié le nom de la salle, je vous redis ça dans quelques instants.
Paul Sauvé,
merci, exactement. Là où il va y avoir le grand rassemblement. Et Julianne avait décidé qu'elle voulait vivre pleinement cette soirée-là, mais elle laisse toute sa famille et son amoureux dans le noir complet. Pourquoi elle est partie comme ça sur un coup de tête? Les gens ne comprennent pas. Et donc, on est dans quelque chose qui est en train de se réussir, l'élection, et quelque chose qui est en train de vivre, qui est en train d'être un échec, l'échec amoureux, en fait, entre Julianne et Étienne. De cette relation-là entre la victoire et l'échec, naissent plein de souvenirs, et j'ai l'impression qu'on est dans les souvenirs de l'auteur constamment. Donc, je ne sais pas c'est où que ça se...
Où commence et où s'arrête l'autofiction.
Ouais. Oui, exactement. Ben, Casey, c'est une... J'ai fait un petit peu de recherche. C'est une famille qui existe réellement. C'est dans la Gaspésie. Et Carl Leblanc vient, est né de la Gaspésie également. Alors, on sent qu'il a voulu s'inspirer de quelque chose qu'il a probablement vécu ce soir-là. Ou sinon, juste entendu. Mais en tout cas, c'est trop, trop proche. Et tout... Tout dans cette nostalgie-là, pardon, on semble nous tirer vers comment vivre autant d'émotions en même temps. Je vais vous amener vers les émotions dans quelques secondes. Oui. Vas-y, Annie, qu'est-ce que tu disais?
Non, des émotions contradictoires.
Des émotions totalement contradictoires.
T'as du très fort, t'as du très, très puissant, très faible aussi. Comment tu fais pour équilibrer tout ça, là?
C'est exactement ça qui est déchirant dans la lecture de ce roman-là, puisqu'on ne sait pas vers où l'auteur va nous amener. Est-ce qu'on est dans cette soirée-là merveilleuse ou on est dans la rupture qui s'est passée? Alors, on pensait que c'était le début, le printemps du peuple québécois, aussi du pays du Québec. Plein de poésie dans cette prose-là, très inspirée, beaucoup d'images évocatrices, l'impression d'avoir un horizon qui s'ouvre, la fin de la noirceur, mais en même temps, l'angoisse la plus grande, qu'est-ce qui allait se passer après? Il y a tellement d'incrédulité. Est-ce qu'on vit pas l'histoire avec un grand H à ce moment-là?
C'est le personnel dans l'universel, là, c'est ça.
Oui, mais souvent trop... entrelacés, qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se vit vraiment dans le roman. Alors, c'est ce que je reproche un peu, parce que effectivement, on sent que là, il y a une libération, il y a beaucoup de René Lévesque, les paroles qui sont reprises pour nous parler des impressions qu'on avait, et tout à la fois la folie qui s'est emparée du peuple québécois sous d'autres aspects. On avait cette impression-là qu'on vivait un moment peut-être chaotique. Qu'est-ce qui allait devenir de ce peuple-là? Mais c'est toujours interrompu d'un côté, de l'autre. On passe à 2006, 1976, et là, on se demande qu'est-ce qu'on doit recevoir en tant que lecteur? Est-ce qu'on devait recevoir toutes ces images-là? Est-ce qu'on devait recevoir des interprétations? En tout cas, on ne nous donne pas de clé d'interprétation. On présuppose souvent qu'on va comprendre, mais il y a beaucoup d'a priori. Alors, l'auteur nous présente souvent mal ce qu'il veut nous dire, et c'est ça que je lui reproche, parce que c'est tellement riche d'images, de sentiments, que j'aurais aimé un meilleur découpage pour bien comprendre dans quelle direction il voulait nous emmener. Alors, même s'il y avait autant de mélanges que ça, même s'il y avait autant de... Peut-être c'est un fatalisme très accompli dans toutes les directions, parce que finalement, on apprend que le personnage, au bout de 30 ans, il est... Tout est un échec, parce que même s'il y a eu l'élection en 1976, pour lui, en 2006, il n'a pas eu son pays. Il y a eu deux référendums échoués, et donc il a l'impression qu'il n'y a plus rien qui peut être modifié. Et c'est très, très étrange, par rapport à ce qu'on a vécu dans les dernières semaines avec le possible référendum qui arrive. Alors, c'est l'histoire d'un coït interrompu. sur deux plans.
Bref, on sent quelques réserves à ta lecture quand même.
J'ai bien aimé... toutes les émotions, ça je dois le dire. Donc le printemps en novembre, Karl Leblanc, lisez-le pour aller chercher l'impression de ce qui se passait en 1976, ça vaut vraiment la peine.
Voilà, donc on découvre ça chez XYZ. Merci beaucoup, Simon. Merci, Annie, d'avoir été avec nous. On entend le thème qui se lève, donc l'émission tire à sa fin. Vagabond avec Tim Curry, dont tu nous parlais. Moi, je parlais du nouveau roman de Joël Martel, Karl Leblanc du côté de Simon. Et bien sûr, on vous rappelle Nostalgie, sans dessert rétro-visité, qu'on vous invite à découvrir. Découvrez nos réseaux sociaux aussi. J'ai quelques secondes pour en parler. Et puis là, avec CKIA sur Instagram et Facebook, allez nous suivre. Notre chaîne YouTube également. Et on se revoit dimanche prochain midi pour un autre épilogue.
Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la librairie du quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier.
CKIA 88.3 Radio Urbaine.
Hasbassar.
Ici Alain Lanancette. Je vous invite au Jazz Bazar tous les dimanches de 17h à 20h.